Bonjour, ravi de vous retrouver avec mon compère et ami Jean-Pierre Fleury. Bienvenue à Stéphane Casalong et Jean-Michel Tombigne qui réalisent cette émission aujourd'hui. Nous allons vous amener dans une zone de terre stérile, très peu propice à la vie, où de très faibles précipitations se produisent à de rares occasions et où par conséquent les conditions de vie sont hostiles pour les plantes ainsi que pour la vie des animaux. Nous allons parler de quoi d'après vous ?
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Comment va-t-il bien ?
Ben ma foi, ça va fort bien. Et vous, cher ami ?
Oh, mais ne m'en parlez pas.
Eh bien alors, je vous en parle pas.
Voilà. Et nous allons parler donc de
zère.
Zère. Ah ouais, alors ça a tout le temps été un fantasme chez les hommes,
le désert. Complètement, bien sûr. C'est quelque chose qui, bien sûr, fait peur, hein, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va mourir de soif.
Ouais,
qui doit être une des morts les plus atroces qu'il y ait.
C'est clair.
On est bien d'accord.
Alors, on va aller
vous avez donné une belle définition, là, de zone stérile et très peu propice à la vie, avec très peu de précipitations.
Ouais.
Quand on regarde des bouquins un petit peu plus anciens, cette notion-là était supplantée par le fait que c'était une population qui était un endroit qui était désert. Le désert est désert. À quel moment une zone déserte, on dit qu'elle est déserte parce qu'il n'y a pas d'habitants.
Oui, voilà. C'est ça qui est assez curieux, parce qu'elle peut être déserte sans habitants, mais avoir des points de vie, ce qui est le cas d'ailleurs.
Bien sûr. La notion, c'était maintenant. On pense surtout à cette notion de non-habitants, très peu. Il faut qu'il y en ait moins de 5 au kilomètre carré. Ce qui se retrouve dans énormément de situations. Parce que ça dépend comment on compte le territoire français. Je crois que c'est 100 habitants au kilomètre carré.
C'est ça, oui.
Mais si on va effectivement dans les quartiers les plus peuplés de Paris ou si on va sur le sommet du Mont-Blanc, il est certain que ce n'est pas la même densité. Donc les moyennes sont extrêmement trompeuses. Des déserts, il y a effectivement, c'est des zones où il y aurait personne ou presque. C'est pas forcément l'histoire du Ténéré ou du Sahara.
Non.
Hein? La définition du désert correspond aussi à la banquise, par exemple, où il n'y a pas grand monde.
Hein? Oui, mais il y a quand même des animaux, voilà.
Oui, mais dans le désert aussi, ça, on va voir ça. Dans le désert, on va dire dans le Sahara, puisque c'est un mot qui veut dire désert, d'ailleurs, en Touareg,
en plus. Tchèque.
S'il y a des déserts, la mer est un désert. Il y a des poissons, mais
oui,
il n'y a pas d'humains.
Il n'y a pas d'humains. Ouais.
Hein, donc ça correspond aussi à ça. Donc un désert peut être peut-être extrêmement mouillé, il peut être extrêmement chaud, comme il peut être aride et extrêmement froid. La banquise, c'est extrêmement froid. Alors, on va surtout aller vers la notion d'aridité. L'eau, lorsqu'elle arrive sur Terre, lorsqu'elle revient sur Terre, parce qu'elle ne vient jamais de très loin, on rappelle le grand cycle, l'évaporation, ça monte, ça part, il y a des nuages qui se chargent de ça, qui se chargent de transport, et puis de temps en temps, il y a quand même des grosses erreurs de livraison. Hein, parce que c'est les livraisons en eau, c'est la chose la plus abracatabrantesque, je ne l'ai pas dit,
mais bien.
Comment vous dites-vous ?
Ah ben je ne le dis pas.
Ah bon, vous ne le dites pas. Non. Voilà, la moins bien organisée, qui puisse exister. Puisqu'il y a, encore une fois, il y a des erreurs de livraison, il peut tomber, il y a des endroits, par exemple, comme l'Atacama au Chili, où on n'a pas le souvenir d'une goutte d'eau.
D'accord.
Hein, c'est un petit peu embêtant. Après, il y a des notions, alors qui sont celles des géographes, des hydrogéographes. Quand il tombe moins de 50 mm par an, c'est ce qu'on appelle un désert hyper aride. Hein, c'est le Ténéré, c'est donc le cœur du Sahara, le désert du Namib. Entre 50 et 200 mm, c'est l'aridité. Alors, c'est d'autres endroits qui sont plus borduriers par exemple, du Sahara.
Voilà, c'est les pays du Sahel, comme le Mali.
C'est pas encore le Sahel.
C'est
une zone complètement, oui, enfin, le Sahel est la zone tampon, hein, entre un endroit à peu près où il y a une pluviométrie à peu près normale et puis une pluviométrie aride. On rappelle quand même, pour situer à peu près tous ces chiffres, qu'à Brest, il tombe en gros, on va dire, entre 800 et 1000 mm par an.
Oui, donc c'est loin d'être un désert.
La Beauce, il ne tombe que 600 mm.
C'est loin d'être un désert encore. C'est toujours vert.
Non, mais bien sûr. Oui, non, mais bien sûr.
Mais
c'est très très loin d'être un désert, bien sûr, puisque Brest, c'est l'endroit le plus vert. Enfin, il pleut. Le problème, c'est que ces 1000 mm par an, ils sont répartis sur 365 jours.
Ah ouais, c'est clair.
Hein, alors que, bon, la Corse, sur sa façade ouest, elle reçoit 500 mm par an.
Ce
qui est pas mal, hein, qui est pratiquement comme la Beauce. Hein. La Beauce, je m'étais documenté parce que j'ai écrit un bouquin, ça coule de source.
Oui. Hein.
Et la Beauce, c'est parmi les, donc la Beauce qui est le grenier à blé de la France. C'est une, donc on imagine que c'est arrosé. Et le grenier à maïs, c'est parmi les 5 départements les moins arrosés de France. Les deux départements qui constituent qui sont l'Eure-et-Loire et le Loiret. C'est complètement étonnant, c'est mal foutu. Mais malgré ça, en Corse, il tombe, sur la montagne, il tombe entre 800 et 1200.
Oui, là, on est loin du désert, quoi. Puisqu'on est en Corse, et vous avez évoqué le nom, il y a un seul désert qui est comme ça. Je vous raconterai une anecdote tout à l'heure, d'ailleurs, là-dessus. C'est le désert des Agriades. Alors, l'Agriade est, comme on dit chez nous, 15 000 hectares. Avec différentes communes. Je pense que c'est Santo Pietro di Tana avec le hameau de Casta qui est habité. Alors désert, pourquoi ? Parce que c'est ce que vous disiez, c'est que peut-être il y avait très très peu d'habitants. Ouais. Parce que désert, que nenni. Parce que dans l'histoire, on sait très bien que c'était un endroit qui était très riche. Il y avait des citronniers, il y avait des orangers, il y avait des amandiers, il y avait du blé. On est loin du désert.
On est loin. Mais c'est peut-être avec la mer de sable d'Ermenonville.
Ah.
c'est en tout cas les deux zones désertiques. Au sens aridité, enfin non, puisque c'est pas aride,
justement,
est sur le territoire français, et peut-être des déserts européens, il y en a sûrement, oui, parce qu'il y en a en Espagne, c'est sûr, il y a des endroits qui doivent plus correspondre à ça, par rapport à la parcimonie de la pluviométrie.
Parce que, quand on regarde le désert des Agriades, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne connaissent pas de cette zone, qui est donc située sur la côte ouest de la Corse, pas loin de Saint-Florent, il est arrosé quand même, ce désert, par des fleuves, des rivières, il y a le Val d'Olez, et il y a le Fiumezante, il y a le Panacalel, il y a le ruisseau de Niulink, le Lisc, la Scalavida, le Tocon et la Scucchiel, l'Alga, le Tête, le Soilé, le Tafunat. Donc il y a des ruisseaux, il y en a, et c'était arrosé, quoi. Donc voilà.
Voilà. Alors que bien souvent dans les grands déserts. Alors on va pouvoir.
Ah oui, on va aller loin. Là.
On va aller loin. Bon, il y a des mots, des noms qui font rêver. Le Sahara, on l'a dit. Le Kalahari.
Ah, désert du Kalahari.
Le Wadi Rum, qui est ce merveilleux désert qui a.
Il est où lui ? En Jordanie.
En Jordanie, vous savez, c'est la fin de lorsque Laurence Darby prend Aqaba. Il traverse le Wadi Rum.
D'accord.
C'est un désert dans lequel il y a quelques montagnes. C'est simplement superbe. Il y a le Makran, qui est un des déserts les plus difficiles qu'il y ait au monde, qui serait la porte vers l'Extrême-Orient. Et ce désert était tellement, donc en gros, complètement au bout de l'Iran actuel, avant le Pakistan.
D'accord.
Mais le long de la mer, d'ailleurs. Et c'est pour ça que les gens, Marco Polo, par exemple, quand il a passé par ce qu'on appelle la Khyber Pass, qui est complètement au nord de ça, dans les montagnes, parce que ce désert était considéré comme infranchissable. Il y a d'autres déserts qui sont infranchissables, le Hedjaz, le Nefoud, toujours Laurence Darabi, vous vous souvenez, le Nefoud, lorsqu'il veut attaquer, il dit « je vais aller jusqu'à Aqaba prendre les canons
»,
on lui dit « c'est pas possible ». Parce que le Nefoud, jamais un homme n'a pu aller sur, ils appellent cet endroit l'enclume, parce que c'est le soleil qui frappe tellement fort qu'on a l'impression qu'il frappe aussi fort qu'une masse sur une enclume.
Et puis il y a le désert de Gobi aussi.
Il y a les Gobies.
Il y
en a plusieurs. Il y a des déserts sur tous les continents. Il y a des déserts énormes en Australie. Il y en a aux États-Unis. Il y a le fameux désert d'Arizona ou autre, sur lesquels d'ailleurs on a fait les expériences atomiques, où les premières bombes ont pété là-bas, avant d'aller à Bikini et autres. J'ai parlé de il y a les salars de Uyuni, les salars qui sont alors une zone complètement désertique, qui sont en altitude d'ailleurs, l'Atacama, etc. Ça n'en finit pas. Quoi.
Mais le plus grand, Jean-Pierre, le plus grand désert du monde, c'est le Sahara.
C'est le Sahara. Alors les dimensions, je les ai notées.
9 millions de kilomètres carrés, ils disent.
Oui, ça fait beaucoup.
14 fois la taille de la France.
Oui, exactement, oui, c'est de cet ordre-là. Alors, il est à cheval sur 10 États.
Ah oui, en effet. Ouais.
Alors, c'est tout, bien sûr. Il y a le Maghreb, mais en dessous, il ne faut pas oublier le Niger, le Mali, Burkina Faso, le Mali. On va jusqu'à
l'Afrique équatoriale, quoi, à peu près.
Oui, tout à fait, avec le Sahel qui sert de tampon.
Et donc, il va d'une mer à l'autre, c'est ça de la mer Rouge jusqu'à l'océan Atlantique, si on va parler.
Oui, tout à fait, puisque le Polisario, par exemple, qui s'appelait autrefois Sahara occidental, vous savez, avec le, donc Villa Cisneros et autres, le, c'est la dune, si vous voulez. C'est assez étonnant. Il y a des endroits justement dans ce Sahara espagnol ou cette partie du Maroc, je ne veux pas prendre
entre le Maroc et l'Algérie, partie,
qui est la façade atlantique, c'est-à-dire Tantan, le Dakhla et autres, qui était autrefois le Ifni, ça s'appelait Ifni, hein, Sahara dit espagnol. C'est le Sahara qui va se jeter directement dans la mer. Il y a une falaise, il y a rien entre les deux. Hein, c'est l'aridité qui se jette dans le. C'est deux déserts qui se rejoignent. Quoi,
et dans ces déserts-là, il y avait de la flotte avant.
Ah oui, ça on va y arriver.
Vous avez évoqué quelques déserts, Jean-Pierre. Mmh. Le désert d'Arabie, celui qu'on appelle le désert d'Arabie, on l'entend, on l'a vu écrit dans certains livres. Il est situé où, en Arabie Saoudite ou il va ailleurs? Parce que je me suis dit bon.
C'est avant tout l'Arabie Saoudite. Mais c'est des zones qui sont bien sûr il y a des frontières maintenant et pour cause
parce que l'Égypte,
de savoir à qui appartient le pétrole. Ouais. Hein, avant il y a 120 ans tout le monde c'était le pays des nomades. Le pays des clans. Oui. Les Saoudiens, Ibn Saoud étaient là. Il y avait aussi les gens qui sont devenus rois de Jordanie qui étaient là-bas, etc. Les frontières n'existaient pas. Parce que d'ailleurs, pour pouvoir avoir des frontières, il faut avoir des hommes pour les défendre. Et un des principes, la vie, il y a des tribus, mais qui sont pas en nombre. Hein.
Dans le désert d'Arabie, Jean-Pierre, est-ce que je me trompe? Parce qu'on peut parler aussi du Sinaï, il est dans le coin.
Il pourrait y être, mais attention, parce qu'on arrive dans des nuances politiques.
Ah oui, non, mais ça c'est différent. Moi, je ne veux pas rentrer dedans.
Là, on va dire le Hedjaz. C'est le Hedjaz.
Ah, d'accord. Mais alors, quand on voit les pays comme, vous parliez de la Jordanie tout à l'heure, quand on voit des reportages qui sont filmés, le Qatar, les Émirats arabes, tous ces pays-là, ils font partie de ce désert.
C'est l'immense désert d'Arabie, quoi.
Qui
a des noms différents, que vous avez évoqué tout à l'heure. On a parlé du Nefoud, on a parlé du Hedjaz, puis il y a plein de, il y a beaucoup de noms. Alors les noms d'ailleurs à chaque fois ils se réfèrent je suis allé en chercher l'étymologie de trois qui est un petit peu différent parce qu'il y en a en Afrique aussi au sud de l'Afrique, il y a dans les déserts les plus immenses et les plus mythiques, il y a le Namib. Hein. Namib en langue mara, ça veut dire le pays où il y a rien.
Oui, c'est clair.
Juste à côté d'ailleurs, en faisant partie, il y a le Kalahari.
D'accord.
Ça veut dire en langue tsana, ce que je parle mal, la grande soif.
Oui, mais ça veut dire la même chose. Attendez, Namib, c'est le désert de Namibie, c'est ça?
Oui, oui.
Ah, d'accord.
C'est une partie de la République actuelle de Namibie, où il y a des zones qui sont, au contraire, à l'autre bout, dans la terre, il y a l'Okavango. Ah, il y a une partie de l'Okavango qui est un delta, on rappelle ce que c'est, là où c'est complètement étonnant. C'est un fleuve qui est tumultueux, qui prend ses sources au cœur de l'Afrique et qui n'a pas suffisamment, j'allais dire, de débit pour aller jusqu'à la mer. Parce qu'il va justement, le delta de l'Okavango, c'est un delta dans l'aridité, dans le désert.
C'est beau à voir, filmé d'ailleurs en hauteur. Ouais. Hein.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois là-bas. C'est simplement grandiose, quoi. Et au moment, justement, où quand on est au cœur de la saison sèche, il y a toujours de l'eau, mais c'est une peau de chagrin. Et là, il y a tous les animaux qui se réunissent à cet endroit-là. Enfin, ouais. Cet endroit-là, ça fait quand même, c'est grand comme un département, au moins. Mais là, on a la chance de voir tous les animaux qui vont boire, quoi.
Ces déserts, on va en parler maintenant, parce que ils ont une musicalité qui est assez étonnante. Je sais que vous l'avez écouté, ça.
Oui, j'étais espanté, comme on dit. J'ai eu peur, comme tout le monde, donc je savais. Vous savez, c'est ce qu'on va entendre, là, c'est ce qu'on appelle le chant de la dune, et c'était autrefois, on pensait, parce que on arrive très facilement, les esprits, les djinns, qui faisaient peur, je veux dire, c'était la meilleure façon de rester sur place. Quand vous entendez ça la nuit, vous n'avez pas envie d'aller traîner de l'autre côté de la dune.
Alors moi, je pensais que l'oreille humaine ne l'entendait pas, or, lorsque j'ai trouvé cet extrait du chant de la dune, ils font la démonstration qu'il y a une partie de ce chant de la dune qu'on entend.
Bien sûr, mais j'ai entendu.
Vous l'avez entendu, vous.
Hein. Oui, tout à fait, je l'ai provoqué même.
Vous l'avez provoqué, vous venez de le provoquer, tenez, vous venez de le provoquer.
Ouais.
Ça fout la trouille.
Alors vous entendez ça la nuit, vous êtes au milieu de nulle part. Est-ce que la guerre est déclarée? Est-ce que c'est un ogre qui est en train de sortir? Est-ce que...
Non, mais c'est quoi en définitive? C'est des mouvements? C'est le vent? C'est quoi?
C'est pas le vent. C'est pas le vent. C'est les milliards de milliards de milliards de grains de sable.
Sable
qui tombent. On provoque sur l'arête de la dune, y a toujours un apic qui est l'arête. Et là, on marche sur le bord de cet apic et ça provoque une avalanche de sable.
C'est étonnant.
Et donc, c'est les sons multipliés. Il y a d'abord le son lui-même, et ensuite, il y a la résonance de la résonance de la résonance. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de fréquences qui sont trop basses pour l'oreille humaine.
Enfin, et celui-là, on l'entend souvent, quoi. Je veux dire, si on est attentif, si on n'a pas le sommeil trop profond, on l'entend, quoi.
Ah oui, oui, et c'est une façon. Et puis, bon, on peut le provoquer en plein jour, hein, pas la peine qu'il fasse nuit. Mais c'est certainement la meilleure illustration du fait que il y a toujours quelque chose dans le désert. Penser qu'un son, bon, il y a des sons de chute d'ailleurs. Hein, bon, des chutes de pierre, ça fait du bruit, mais c'est pas comme ça, c'est pas modulé. Mais penser qu'un son puisse venir directement de minéraux, sans être provoqué par l'homme, sans que ce soit l'homme qui tape sur quelque chose, ça ajoute encore au mystère du désert.
Et d'ailleurs, Marco Polo disait une chose étonnante, il disait, en parlant de cette musique, il disait « Les sables qui chantent parfois remplissent l'air avec les sons de toutes sortes d'instruments de musique et aussi le bruit des tambours et du choc des armes ». Oui. Il avait peut-être eu un petit coup quand il a dit ça. Mais...
Bah, le Marco, là, il y allait de temps en temps.
Hein. Parce qu'apparemment, les dunes, Jean-Pierre, ça je savais pas, il y a une trentaine de dunes chantantes, paraît-il, qui ont été recensées dans le monde, donc en Chine, en Amérique, mais aussi dans le Sahara, et toutes les dunes ne sont pas sujettes à ce phénomène.
Non, mais je pense qu'il doit y avoir un problème justement d'aridité, de composition du sable, et puis de sécheresse. Enfin, moi j'ai eu la chance à plusieurs endroits. Je suis allé au Sahara en rentrant par la porte de Clignancourt, par la porte d'Orléans, par un petit peu partout. Je l'ai pénétré, si j'ose dire. C'est pas pour ça que je le connais.
Oui, 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 oui.
C'est non, pas pour ça que je l'ai fait non plus. Le mot faire, c'est une. Laissons ça au bon Dieu de tous ordres. Non, j'y suis allé. J'ai découvert des choses dont on va parler. Découvert. J'ai rien découvert. On m'a montré et j'ai montré les choses qu'on m'avait montrées.
Et vous l'avez raconté. C'est ça qui est bien.
J'ai raconté.
Je voulais rajouter un petit truc.
Monsieur.
Non. Vous parliez des habitants du désert. Moi, j'ai rencontré les Touaregs, vous aussi. Et pour les Bédouins, le bruit. Effectivement, ce bruit-là, cette chanson-là, traduisait la présence, vous le disiez il y a quelques instants, des djinns, sur ces esprits qui rôlent dans le désert, qui est un phénomène raconté, notamment, pour ceux qui ne l'ont pas lu, dans la nouvelle La Peur, de Guy de Maupassant, il raconte cette histoire.
Le silence de ces espaces infinis m'effraie.
Tout à fait.
Copain d'école.
Vous voulez qu'on écoute une chanson qui parle de la neige, mais au Sahara? Ça vous dit
pourquoi
ou pas? En plus, une princesse qui nous vient d'Indonésie, qui chante ça.
Angoune.
Ah oui, une princesse indonésienne. Elle est belle. Hein. Et puis elle chante bien en plus. Bon, on écoute cette chanson et on retrouve Jean-Pierre. On parle des déserts aujourd'hui.
Naturellement vôtre. En rediffusion le mercredi à 21h.
Et si le soleil ne brûle
Voilà cette belle voix qui est celle d'Angoun qui chantait donc la neige au Sahara.
Naturellement vôtre, quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.com.
Et nous parlons des déserts, du Sahara en particulier, mais d'autres déserts. Mais on va revenir sur ces déserts et la notion d'absence de vie. Et on dit bon qu'il n'y a pas de vie humaine dans le désert, mais il y a quand même des. Ben d'abord, il y a des gens qui vivent. Hein, je pense notamment aux Touaregs et aux nomades, mais il y a aussi des animaux. Il y a des plantes. C'est pas si mort que ça.
Bien sûr que non. Alors, il y a bien sûr le cliché qui est en partie vrai. Quand on est dans le désert, il y a toujours des yeux qui nous regardent. C'est très souvent des chèvres qui vous regardent. Mais en même temps, s'il y a des chèvres, pas loin, il y a un berger.
Oui.
Un vrai berger, hein, c'est-à-dire un type qui vit avec son troupeau. Donc ça va très très vite. Si on tombe en panne ou autre, il y a assez vite, si on est sur des voies, et ça on reviendra là-dessus, qui sont, si j'allais dire, sur des chemins battus. Oui, des chemins battus depuis des siècles d'ailleurs, c'est toujours les mêmes. Là, il y a de fortes chances qu'on survive, même si on a plein de problèmes, parce qu'il y a du trafic maintenant, de plus en plus, et de plus en plus maintenant. Vous imaginez toutes les clandestinités qui se baladent par là. C'en est dangereux. On revient à ce Sahara, là.
Oui.
Donc, le Sahara, d'ailleurs, en berbère, donc les Touaregs, qui parlent le tamatchek, d'ailleurs, qui ont aussi un alphabet, les Tifinagh, ça s'appelle.
Mais c'est quoi? C'est une langue qui est à eux, qui est une langue véhiculaire, qui est une langue qu'ils utilisent d'un pays à un autre, on les comprend.
Ben oui, parce que c'est des gens qui normalement n'ont pas de frontières.
Voilà.
Un Touareg du Niger va comprendre un Touareg qui est au Mali, etc. Ça, c'est certain. Il y a dans ce Sahara, il y a des déserts à l'intérieur de ce désert. Donc, il y a des déserts de sable qu'on appelle les ergues,
les ergues.
Des déserts de pierre qu'on appelle les règles.
Les règles.
Hein, c'est non pas l'anagramme, au moins.
Hein, vous voyez ce que je veux dire. Règles, c'est la pierre. Ergues, c'est le sable.
C'est l'anagramme, oui, voilà. L'ergue, c'est le Ténéré. Hein, c'est le grand ergue du Ténéré. C'est là, on est plus loin que loin. On a la pointe du compas du désert, si vous voulez. Les déserts de pierre, c'est des noms comme ça qu'on connaît, qui font rêver. Quand on a lu, il y a un merveilleux auteur français qui s'appelle Frison Roche, qui a écrit La montagne aux écritures, Les rendez-vous du Sindilène et autres, c'est le Tanezrouf, hein, c'est les règles, désert de pierre. Et aussi, d'ailleurs, désert de montagne, c'était aussi bien sûr le domaine de Frison Roche, c'est le Hogar, hein, c'est le Tassili, c'est le Tibesti. La pluviométrie n'est pas la même suivant qu'on soit à un endroit ou autre de ce désert, à Luxor, que tout le monde connaît, il y a quelques millimètres quand il fait beau, quoi, si j'ose dire, par an. Hein. Le Fezzan, vous vous souvenez, en Libye.
Oui.
Pourquoi on connaît le Fezzan? Parce qu'il y a le serment de Koufra là-bas. L'oasis de Koufra qui est dans le Fezzan. Tous les gens, là, on en parle, c'est bien sûr l'endroit où la deuxième DB s'est créée. Et c'est la colonne Leclerc qui est née là-bas, quoi, le serment de Koufra. Et puis il y a des endroits où il y a pratiquement des déluges. Bon, qui sont, j'allais dire, des déluges secs. Mais Tombouctou. Ça fait rêver, Tombouctou.
Royaume Dogon.
Au Mali, c'est juste à côté de chez les Dogons. Pays extrêmement malheureux maintenant, parce que ils sont empêtrés dans toutes ces bêtises humaines. Là-bas, ils tombent quand même entre 150 et 250 millimètres
par
an. Et ce qu'il ne faut pas oublier, d'ailleurs, c'est qu'il y a le fleuve Niger qui passe là.
Qui est à côté.
Et ce fleuve Niger qui traverse pas mal d'aridités, en apportant, bien sûr. Le fleuve Niger, c'est un ou une immense oasis. Je ne sais pas ce que je dois dire, d'ailleurs, à propos de ça. Je ne sais pas si c'est un ou une. Je
pense qu'on dit... On dit une oasis, non?
D'accord, on va dire une
oasis. On dit ça, bon, on nous corrigera. Au cas où.
Voilà, tout à fait. Donc, on arrive à l'eau. Pour qu'il y ait du monde, il faut quand même de l'eau. Alors, les oasis, justement, c'est quelque chose de très étonnant aussi. Ça peut être au milieu. Alors là, c'est l'expression au milieu de nulle part. Sinon que ce nulle part est connu des gens qui ont besoin d'aller d'un puits à une oasis et autres. Moi, il m'est arrivé, je me suis amusé à filmer dans le Tassili, un endroit qui est d'ailleurs très très beau, parce que le Tassili, c'est de la montagne, c'est un peu comme le Wadi Rum, c'est de la montagne et du sable, et il y a des paysages où vous rentrez dans des canyons, on pourrait tourner un western d'ailleurs là-bas, hein, sans problème, et là, il y a souvent, il y a de l'eau, hein, on appelle ça des geltas. Dans ces geltas, il y a des populations résiduelles, d'ailleurs. Il y a des crocodiles qui survivent, hein, depuis que le, depuis 5000 ans, depuis que le Sahara s'est asséché pour la dernière fois. Et il y a aussi des poissons. Et moi, j'ai filmé des gens en train de pêcher à la ligne, en plein désert.
Ah, carrément.
Là-bas, oui, une sorte de carpe qui avait là-dedans. Qui
était on, on dit une oasis, on dit. On dit que c'est
une oasis. Ben, bien sûr. Bon, bon, ben, d'accord. Voilà. Vous avez encore raison.
Non, 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 mais c'est pas moi, j'avais tort.
Donc, ah, ben non, non, ben, pas du tout.
Ils m'ont corrigé tout de suite.
Il y a de l'eau, j'allais dire, il y en a partout. Hein, c'est un petit peu la, c'est la fille du puisatier, c'est-à-dire qu'on crève de soif alors qu'il y a de l'eau en dessous. Les endroits dont je vous parlais tout à l'heure, le Fezzan, donc Koufra et autres, c'est en Libye. Il s'avère que sous la Libye, il y a une nappe phréatique extraordinaire. Enfin, c'est ce qu'on appelle de l'eau fossile. Mmh. Alors, pourquoi elle est fossile? Parce que ça fait 40 000 ans qu'elle est enfermée là-bas.
Ah oui,
là-bas.
D'accord. Ouais.
Il y a des... Oui, mais ça, vous savez, les eaux que, dont on parle à certains autres endroits, ça fait très très longtemps aussi que la goutte est tombée. Pour, combien de temps ça met pour traverser telle montagne et devenir l'eau neuve de nos cellules? Il faut un certain temps. Bon, en tout cas, là, elle est là depuis 40 000 ans. Elle peut plus bouger, donc on dit qu'elle est fossile. Elle se renouvelle pas. Mais n'empêche que ça a été une richesse pour l'ensemble de ces endroits-là, puisque l'eau maintenant a été exploitée. Elle est exploitée comme du pétrole, c'est-à-dire qu'on l'a fait remonter comme du pétrole. Et cette eau, bon, normalement, devrait apporter la richesse à la Libye.
Oui.
Pauvre richesse actuellement, pauvre
oui.
gens.
Pauvre gens,
il y a pas, donc, mais le pétrole, il n'y en aura plus. L'eau, d'ailleurs, bon, on ne sait pas combien il en reste dans cette nappe. On dit qu'elle est fossile parce que cette nappe ne va pas se reconstituer. C'est pas l'eau qui va disparaître. L'eau, on peut pas la faire disparaître. Je reviens là-dessus. L'eau, elle est, depuis que le monde est monde, elle est au moment de l'agrégation qui a fait que la Terre s'est formée, l'eau est arrivée en même temps. Hein. Et c'est la quantité d'eau qu'il y a eu ce jour-là. C'est encore une fois, c'est des témoignages indirects. Enfin, pendant ces, il y a 5 milliards d'années. C'est la même quantité d'eau que celle qu'il y a maintenant.
Mais pourtant, Jean-Pierre, prenons par exemple la sécheresse qui pointe le bout de son nez chez nous en Corse.
Ouais,
On dit que les nappes phréatiques, à un moment donné, vont être épuisées, quoi.
Bien sûr, mais c'est le problème de livraison d'eau dont je vous parlais tout à l'heure.
Ah, voilà, c'est ça.
C'est que cette eau, elle est ailleurs. Elle n'est pas partie. Hein. Quand l'eau s'évapore, et fort heureusement, l'eau, quand on est gamin, par exemple, on voit que tout ce qui est liquide, quand ça prend une pente, ça se précipite.
Oui.
Ça se précipite pour aller vers la mer. La mer, c'est un endroit où l'eau s'évapore. Hein. Mais d'ailleurs, sur les lacs, et partout. De toute façon, l'évaporation, elle est partout. Et l'eau qui s'est compromis, parce que c'est un solvant extraordinaire, qui sont compromis avec toutes les saletés, toutes les saloperies qu'il y a sur cette terre, avant de la quitter pour aller un petit peu plus haut, lorsqu'elle s'évapore, elle largue tout. Elle se refait une virginité. Elle remonte, elle va dans les nuages, et là, les nuages, sous forme, enfin, c'est des molécules, hein, qui sont agglomérées aussi, là, et les nuages, ça les pousse vers l'ouest, vers l'est, et ça leur fait faire 50 kilomètres ou 5000 kilomètres. Et ça tombe à des endroits, on voit très bien, par exemple, l'endroit le plus arrosé de France, c'est le mont Aigoual.
Le mont Aigoual, oui.
Mais la face qui est sous le vent est complètement arrosée, il doit tomber, je sais pas, de 2000 millimètres par an. Et puis la face qui est de l'autre côté du vent, elle est pratiquement aride. C'est la même chose à La Réunion, un des endroits les plus arrosés du monde, il tombe 14 mètres de flotte en un an. Ça fait beaucoup quand même.
C'est énorme, c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Parce que vous imaginez justement l'immense marée, 14 mètres d'eau en un an. En 100 ans, il tombe combien?
Oh, je veux pas me faire
Bah, là,
dimanche midi.
Il tombe 14 kilomètres.
14 kilomètres, ouais.
Ça fait quand même une sacrée marée. Mais heureusement que ça repart quelque part. Donc cette eau, elle n'en finit pas de circuler, mais toujours dans la même quantité globalement sur l'ensemble du globe. Alors, elle circule quand elle est sous forme liquide, elle circule bien sûr sous forme gazeuse, et puis elle est emprisonnée lorsqu'elle est sous forme solide.
Mais Jean-Pierre, quand on parle des oasis, je rappelle une oasis, donc c'est
féminin. Oui.
C'est la nappe phréatique en définitive qui fait qu'elle est un peu plus haute à ce niveau-là, pour qu'on ait des oasis comme ça en plein désert à un moment donné.
Alors il y a des trucs qui sont étonnants. Il y en a qui sont provoqués dans les oasis. Hein. C'est une technique qui existe depuis perpète, les fogaras. C'est-à-dire que c'est plutôt du côté de la Mésopotamie, puisque ça a été le berceau de toutes les civilisations, des nôtres en tout cas, certainement pas des chinoises. Et ça fait fort longtemps, depuis des siècles et des siècles, même pratiquement des millénaires, qu'on sait aller chercher l'eau dans le désert. C'est-à-dire qu'on fait des galeries dans lesquelles sourd de l'eau. Hein, mmh. Et ces galeries, elles sont tellement longues, elles peuvent faire des dizaines de kilomètres. Et ça finit par pouvoir abreuver à la fois des champs et puis des communautés. Et ça, en général, il y a des villes qui sont fixées autour de ça. Hein.
Mais Jean-Pierre, alors, ce qui est assez étonnant dans l'imaginaire collectif, c'est on parle d'oasis quand on parle du désert, du Sahara. Mmh. Mais est-ce qu'on parle d'oasis aussi quand on parle, je sais pas, du désert de Gobi, du Kalahari ou d'autres déserts? Est-ce qu'il y a des oasis aussi là-bas?
Bien sûr, il y a des endroits où, au milieu de ces immensités,
il y a des
lieux de vie, il y a de la verdure. Et c'est d'ailleurs complètement étonnant quand, au détour d'une montagne complètement aride, je parlais du Hoggar ou du Tassili, et vous arrivez à un endroit où il y a de la verdure. Alors, en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de lauriers-fleurs, par exemple, dans ces trucs-là. On a vraiment l'impression, même quand il y a personne, que c'était jardiné. Et effectivement, il y a des endroits qui sont jardinés. Où il y a des
populations, quoi.
Oui, et puis c'est l'image, le paradis, c'est un jardin pour les gens qui sont là-bas, avec de l'eau, avec des fontaines un petit peu partout, etc.
D'ailleurs, c'est rentré dans le langage courant, parce que quand on dit oh, c'est une oasis, c'est un endroit de détente.
Exactement, où on a l'impression que... Mais bon, il y a quand même des moustiques, des scorpions, tout ce que vous voulez.
Hein, alors justement, tiens, vous me tendez la perche. On parle des habitants, mais quand on va dans le désert, on sait très bien, pour ceux qui ont le bonheur d'y aller, dont vous êtes et dont je suis, il y a des animaux et pas des moindres. Je veux dire, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des renards, des sables.
Il y a les fennecs, bien sûr. Mais il y a aussi
gerbies, gerboises.
Enfin, c'est tout. Et ça va du plus petit au plus grand. Vous avez évoqué les scorpions, mais il y a encore plus petit, bien entendu. Et puis il y a des trucs complètement étonnants. Il y a des animaux qui sont adaptés. Le fameux désert de Namib, il y a des éléphants qui vivent dedans.
Ah ouais. Hein.
Et l'image que moi j'ai jamais pu faire, que j'ai cherché à faire, mais s'il y a des, c'est pareil, ce désert de Namib va se jeter dans l'Atlantique, avec un endroit complètement étonnant, qui est qu'on appelle la côte des squelettes, où il y a le courant froid, qui monte de l'Antarctique, qui rejoint l'extrême chaleur de l'Afrique. Donc d'ailleurs, grâce à ça, il y a de la vie, parce qu'il y a du brouillard. Et donc les plantes sont adaptées, etc. Et donc elles attrapent tout ça. Et il y a des éléphants qui descendent sur leur cul, les plus grandes dunes du monde qui se jettent en apic sur le rivage. Il y a des éléphants qui... Moi j'ai vu des images de ça, ça s'est peut-être produit une fois, il y avait quelqu'un, le gros éléphant, il descend, il se marre bien, quoi. Il arrive là-bas, et dans une colonie, et c'est complètement étonnant, dans une immense colonie d'otaries d'ailleurs.
En tout cas, ce qui est sûr, Jean-Pierre, c'est qu'à partir du moment où il y a des êtres vivants, en l'occurrence, on parlait des gerbilles, ou les fennecs, ou même des insectes, il y a automatiquement un tout petit peu d'eau quelque part.
Bien sûr, alors c'est le royaume de la parcimonie. Vous avez été gentil de ne pas employer le mot survie.
Non.
C'est pas vrai.
Ils vivent.
C'est leur milieu. C'est, à la limite, c'est l'homme du 21e siècle que nous sommes, habitués à boire frais et à boire et à gâcher l'eau, qui serait en état de survie là-bas. À la fois les gens qui vivent là-bas, les Touaregs et autres,
ils ont
l'habitude, donc ils savent comment gérer cette pénurie d'eau.
Ils boivent chaud d'ailleurs, Jean-Pierre. J'étais assez étonné pour avoir visité il y a très longtemps, j'étais jeune.
Ouais.
D'abord le thé bouillant.
Ouais.
Le thé bouillant, un thé noir assez fort d'ailleurs, en signe de bienvenue.
Ça dépend lequel.
Ben je sais pas, moi c'était.
Je vais vous dire, là il y a un truc alors. Il y a trois thés. C'est le même thé. Alors ça fait partie justement du relatif dépouillement qu'ont les nomades. Bon, maintenant c'est différent parce qu'il y a des 4x4 et autres. Mais avant, le bagage était réduit à son minimum et chacun avait de quoi faire du thé. Donc la théière, des verres. Alors moi j'ai toujours vu des verres Duralex, j'étais très fier, vous savez. mais là-bas, oui, bien sûr.
Hein. Du sucre.
Un pain de sucre. Un marteau pour le casser.
Exact.
Hein, ensuite, il y avait la cérémonie du thé, alors de la menthe ou de l'absinthe quand il n'y en a pas.
Magnifique.
Et ce thé, c'est pour ça que je dis, il y en a trois. C'est le même thé, c'est le chai. Hein, c'est le monde se divise en deux. Il y a des gens qui boivent le chai, l'autre le tea. Chai, c'est le même mot, hein, mais c'est le...
Et donc, c'est un thé noir, en couleur.
Oui, avec... Alors, il est pas, au départ, le premier, il est doux comme la vie.
Oh, joli.
C'est-à-dire qu'il n'est pas très fort. On ne l'a pas laissé infuser. Le deuxième, il est fort comme l'amour.
Hein?
Et le troisième, il est amer comme la mort.
Magnifique.
C'est beau quand même.
Ah oui, c'est beau. Et puis en plus, c'est signe de bienvenue et d'acceptation lorsque vous rentrez dans une tente de Touareg, ils vous offrent la
Ah oui, mais de toute façon, oui. C'est la,
ouais. Ah oui, c'est comme quand ils vous offrent du lait de chamelle, quoi. Il faut boire, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, attention, le lait de chamelle, il faut... il faut avoir les boyaux en bon état. Hein.
C'est clair. Bon.
Et puis après, les conséquences dans le désert, je vous garantis que vous pouvez pas trop aller vous planquer.
Hein. Non plus, parce qu'il n'y a pas de fougère. On va écouter une nouvelle chanson. On est dans Naturellement Vôtre avec vous, bien sûr, et avec Jean-Pierre. Et on parle aujourd'hui du désert.
Moi, je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitudes se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown cyniste plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. De l'autre côté, voilà qu'un toujours aussi lunatique, son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdict. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Les gens disent que les poètes finissent tous trafiquants d'armes. On est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Sur une lune de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombant nulle part, y'a Robinson le solitaire qui m'a dit je trouve plus mon île, vous n'auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, là, tu te demandes à qui ça sert. Les yeux bandés. Hier un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit t'as tenu combien de jours? J'ai répondu bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, un peu truqué du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, là, tu te demandes à qui ça sert. Les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps.
Jean-Patrick Capdevielle, c'était Quand t'es dans le désert, grand succès bien sûr.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
En tout cas, nous on prêche pas dans le désert, mon cher Jean-Pierre, j'espère pas, j'en suis sûr même, puisqu'on est interpellé assez fréquemment par des auditeurs qui nous rencontrent, et l'un et l'autre, vous, parce que vous dédicacez votre ouvrage sur les oiseaux, et pas que, un peu partout en Corse, et puis moi quand on me rencontre, on dit « Ah, on écoute le dimanche, ouais, merci ». Donc on prêche pas dans le désert, dans ce désert, on a évoqué des hommes, on a parlé des Touaregs, les fameux hommes bleus.
Pourquoi ils sont bleus, tiens?
Alors c'est par rapport au tissu qu'ils ont, qui se déteignent, qui déteignent, paraît-il, sur leur peau.
Exactement.
C'est ça. Ils sont pas si bleus que ça, d'ailleurs. Ils sont un peu bleus.
Oui, en tout cas, la sueur qui fait déteindre.
Oui, alors il y a une chose. On a parlé du thé il y a quelques instants, la cérémonie du thé. Donc ils boivent, il faut boire chaud lorsqu'il fait chaud et non pas boire froid. Parce qu'il faut, et c'est eux qui nous disent que ça désaltère.
Oui, mais c'est plus facile d'ailleurs de boire chaud que froid là-bas.
C'est vrai aussi.
Un petit truc quand même, tiens, si vous voulez refroidir une gourde.
Allez-y.
Alors, il faut gâcher un petit peu. Vous savez, c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des gourdes militaires sont dans du tissu.
Enfin, oui, exact. Oui, de la toile.
Donc, vous mouillez cette toile. Alors, vous sacrifiez un petit peu d'eau, si vous en avez à sacrifier. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas dans des... C'est pour du confort. Vous attachez votre gourde au bout d'une ficelle suffisamment solide pour ne pas que tout ça casse, et vous la faites tourner à toute vitesse. Et donc, il y a un échange thermique entre l'eau qui est dans la toile en question et qui va refroidir à travers le métal, l'aluminium de la gourde, qui va refroidir ce qu'il y a à l'intérieur.
Mais oui, qu'il faut écouter naturellement vous. Si vous traversez le désert des Agriades, vous ferez ça.
Vous penserez à nous. Oui. Attention, la corde doit être dessus. Autrement, vous faites une fronde.
Oui, ça c'est clair.
Oh, mon eau. Plouf.
Oui, mais surtout celui qui la reçoit dans la figure, ça va faire drôle.
Casser la bouteille.
Alors, c'est dommage. On dit que c'est des peuples nomades, bien sûr, qui vivent dans le désert pour la plupart.
Oui, c'est ça la nuance, parce que c'est les gens qui tiennent un resto à Agadez. Cela dit, maintenant, c'est plus une bonne idée. Mais ils sont fixés là. Le tourisme est devenu d'ailleurs une activité aussi extrêmement importante. Mais on va, j'allais dire, parler un petit peu plutôt de cette vie de toujours. Donc il faut manger quand on est. Il faut manger et manger chaud d'ailleurs. Donc il y a un truc extraordinaire là-bas, c'est la tagela. La tagela, c'est un pain plat, une galette de pain qui est cuite directement dans le sable. Et ça, c'est complètement étonnant. C'est
difficile. Blé ou mil?
C'est du blé, je pense.
Je sais pas.
J'en ai mangé, ça m'a pas paru tellement exotique, et puis j'étais tellement curieux de savoir s'il allait y avoir du sable ou de la cendre dedans, que j'ai. Eh ben non. Donc, on garde le foyer de cendre très chaud. On met directement dessus la galette qui a été pétrie, et on recouvre de sable, et ça cuit comme ça.
Ça fait un isolant, quoi.
Ça fait un isolant, un petit peu comme la croûte de sel. Donc c'est assez étonnant.
Parce que ce que vous dites sur la nourriture, Jean-Pierre, là on parle du Sahara, mais il en est de même sur les autres pays comme les déserts de Mongolie et tout ça. Et la nature, elle est violente, elle est dure, il fait très très froid, là il fait très très chaud. Ces gens se nourrissent quand même.
Alors le Sahara, il faut savoir effectivement qu'il y a des endroits où il peut faire 50 degrés à l'ombre. Le problème, c'est de trouver l'ombre.
Et puis après, il fait très froid la nuit.
C'est pas une image. Non, et puis il y a d'autres endroits où la nuit, c'est 0 degré. Parce que les ciels, alors je dis les ciels parce que c'est une nuance poétique, les ciels sont extrêmement dégagés. C'est là-bas, une nuit au Sahara, ça pourrait être le titre de plein d'œuvres. On est l'expression à la belle étoile, on est à la merveilleuse étoile.
Magique.
Et on voit toutes ces voûtes célestes qui sont au-dessus de nous, très souvent des étoiles filantes. Moi, j'ai eu la chance de voir des météorites tomber ou des choses comme ça. Attention, je parlais tout à l'heure, enfin, dans une émission récente, on rentre dans une cathédrale, on est touriste, on ressort pèlerin. Je veux dire, il faut faire attention aussi à ce genre de choc où beaucoup d'ailleurs de gens qui sont allés longtemps dans le désert sont devenus totalement mystiques à ce contact-là.
On peut le comprendre.
Contact du dénuement, où il y a très peu de choses. Il faut par exemple du bois, parce qu'on mange chaud. Alors le bois, on le trouve sur place. Il y a quelques arbres. Qui sont alors des arbres, il n'est pas question d'en couper.
Il y a des épineux, quoi. Non, faut pas.
Il y a des épineux qui sont là aussi en vie, non pas en survie, mais qui sont adaptés. Certes, c'est beaucoup des arbres qui ressemblent de la famille des acacias. Il y en a certains, quand on a été faire des études là-dessus, ils ont 70 mètres de racines. Ce bois, ils se servent simplement du bois qui est mort. Mais là aussi, il y a un problème. S'il y a trop de monde dans ce désert, il n'y aura plus ce bois mort qu'on va pouvoir trouver. Donc, pourquoi pas, on peut amener maintenant des bouteilles de but à gaz. Ils ont une façon de faire le feu que j'ai déjà évoqué, qui est beaucoup plus... qui gâche rien. Nous, quand on fait un feu, on allume quelque chose et ensuite on met des gros morceaux de bois au milieu. Vous voyez ? Eux, ils mettent le bois en étoile. Ce qui fait que constamment, d'ailleurs, il faut repousser l'extrémité qui est enflammée. Et il y en a,
ça fait tout
la
braise.
Ça comme ça. Et ça fait de la braise, et ça, tout ne brûle pas d'un seul coup. Donc, c'est tout ça.
Donc, ils se nourrissent, on l'a dit. Ils ont des temps de l'eau, ils ont en général des chameaux.
Alors, ils ont des chameaux ou des dromadaires. Il ne faut pas croire qu'ils sont tout le temps en train de traire la chamelle. Ça, c'est quand c'est les endroits de repos où ils peuvent faire ça. C'est des éleveurs. Dans le Sahara, ils élèvent des caprins, donc des chèvres. C'est très difficile, ces chèvres-là, de pas les confondre avec des moutons, d'ailleurs, parce que à chaque fois, je me suis gratté le crâne en me demandant ce que c'était. Alors maintenant, on est dans un monde, le chameau, le dromadaire continue bien sûr à rendre ses services, mais on est dans un monde de 4x4, les 4x4 d'ailleurs les moins sophistiqués possibles. C'est-à-dire que c'est les premiers Land Cruiser, pour ne pas citer
de
marque.
Oui, les Land Rover aussi.
S'il y a trop d'électronique dedans, ça leur fait peur, parce qu'il n'est pas question de tomber en panne. Là, c'est vrai, c'est une certitude, il vaut mieux pas tomber en panne. La plupart des routes des Touaregs sont les mêmes depuis des millénaires. Ils vont d'un endroit à l'autre, des endroits qui sont jalonnés autrefois de caravansérails.
Ah ouais, ça c'est
magique. Dont on voit les ruines, qui sont jalonnés de tombes. Alors les tombes sont extrêmement importantes, même quand il n'y a pas de cailloux, il faut essayer d'en trouver, ou alors on amène la dépouille à un endroit où il y a des roches, pour ne pas que ce soit bouffé par les hyènes en particulier, les chacals, les fennecs, etc.
Et il y a ça la nuit aussi. Ouais.
Avec une présence complètement étonnante, c'est qu'on est alors toujours de ce fameux milieu de nulle part, et on s'arrête un petit peu, il y a le Mola Mola qui arrive.
C'est quoi ça?
Le Mola Mola, c'est suivant la façon dont on le regarde, c'est soit l'esprit du mort, mais ça il faut savoir le regarder, soit c'est un oiseau. Et c'est un oiseau, le Mola Mola, de la famille des Bruants, donc c'est pas très haut, mais qui est curieux et qui a fixé. Il faut qu'ils aient un repère, ces oiseaux-là. Bon, ça prouve d'ailleurs qu'ils trouvent leur nourriture. Il y a des insectes, des larves d'insectes et tout ça. Mais il faut qu'ils aient, j'allais dire, un amer au milieu de ce nulle part. Donc c'est ces pierres qui ont été dressées. Des pierres dressées, il y a une signification aussi. Dans le désert éthiopien, qui est encore un endroit où les gens vivent une vie d'autrefois, au lieu d'avoir simplement ce qu'ils avaient, vous savez, le gros couteau recourbé comme dans Tintin, bon maintenant ils ont des calaches. Mais ce qui n'empêche qu'il y a quand même toujours des histoires de vendetta et autres. Et, chose très importante, la vengeance. Et là, moi, j'avais, il y a pas tellement longtemps, on était là-bas, dans ces déserts, et il y avait des amas de pierres, un peu comme des cairns, et certains avaient deux pierres parallèles en haut, qui étaient posées comme ça, et d'autres pas.
Et ça signifie quoi, alors?
Alors, celles qui en ont, ça veut dire que le mort était vengé.
Ah, d'accord. Donc, la vendetta était terminée, quoi.
Mais les autres, ça voulait dire que c'était en cours. C'était juste il y a 10 ans, quoi.
C'était pas rassurant. Sinon, les vêtements blancs, pourquoi on dit qu'il faut que le blanc est important pour la chaleur? Parce que ça réfléchit la chaleur.
Complètement.
Simplement.
Mais les plantes s'en sont aperçues parce que beaucoup de ces gros arbres qui vivent là-bas, l'écorce est très blanche. Il y a des baobabs, par exemple, ou autres. Ce qui est intéressant à constater, c'est que ce désert, il n'a pas toujours été comme ça. Il n'a pas toujours été aride, donc ça n'a pas toujours été un désert.
Ah non.
On va aller très loin, la fameuse Tétis, vous savez, qui était la mer Méditerranée d'avant, elle était là-bas aussi, au Sahara, il y a 100 millions d'années. Et donc, on retrouve d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des mines de phosphate et tout ça, il y avait toutes ces choses dans les phosphates, c'est du calcaire, bien souvent, issu de coquilles,
de coquillages,
entre guillemets. Donc, il y a eu des... On s'est aperçu qu'il y avait des cycles, qu'il y a eu des périodes très vertes, suivies de périodes désertiques, arides, avec un cycle de 5 à 6 000 ans.
Hein. Ah oui, d'accord.
Il y a 8 000 ans, par exemple, il y avait une période très verte, qui devient aride il y a environ 6 000 ans. Donc, tout ça correspond. Il y a un cycle qui correspond au réchauffement par rapport à l'histoire des glaciations.
Nous, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est que, parce que là, le temps qui nous était imparti,
ah bon,
cher ami, il a déjà écoulé, parce qu'on, on a appris plein de choses encore aujourd'hui. Je suis persuadé que vous, derrière votre poste, vous avez été comme moi. On va se quitter, Jean-Pierre, avec une musique, qui s'appelle Tédéré. On a parlé du désert des Tédéré. J'ai plus très bien son nom. Je crois que c'est Bombino. Et la chanson s'intitule The Desert, My Home. Mon Jean-Pierre, on se retrouve la semaine prochaine.
Les Touaregs sont très musiciens.
Tout à fait.
Parce que justement, le soir au campement, c'est ça. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Si vous le voulez bien.
J'étais déjà dans la lune.
Bof, bien sûr. Joli.